beaucoup de visages qui évoquent beaucoup d'événements, de choses vécues, heureuses ou malheureuses, ensemble, le chemin qu'on a fait, soit ici, dans la Sarthe, soit même sur le chemin d'autres coins d'Europe ou en Afrique. Et de nous savoir là, ici, ce soir, et en communion avec ce que nous vivons, ça me touche beaucoup. Mon intervention ce soir, c'est un cri d'alarme pour attirer votre attention et celle de tous nos amis. Elle s'inscrit dans la suite d'un rapport que Mgr Samuel Kleda, président de la Conférence épiscopale du Cameroun, nous a demandé à une équipe et moi-même pour alerter les autorités camerounaises et l'opinion publique, nationale d'abord, et internationale sur le drame que vivent les populations des régions extrême nord du Cameroun. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a eu, j'espère que ça s'est passé dans de bonnes conditions, une grande marche dans toutes les villes et toutes les grandes agglomérations du pays pour dire non à Boko Haram. Les exactions d'une violence inouïe et sans limite commises à l'encontre des populations pourtant paisibles de cette région par le groupe islamiste djihadiste nigérian Boko Haram, de son vrai nom Jamaatul Hamis Sunnah Dawati Wal Jihad, ce qui veut dire groupe sunnite pour la prédication et le djihad, semble laisser le monde indifférent. Ça ne fait guère que 15 jours qu'on commence à en parler dans les journaux ici en France. Et qu'avant, il fallait chercher beaucoup pour trouver des nouvelles. Vous avez tous quand même en tête le visage de Aboubakar Shekau, qui est le leader présumé de ce groupe terroriste. Il n'est pas très avenant. Depuis longtemps, les évêques du Nigeria ont tiré la sonnette d'alarme sur ce qui se passait chez eux, mais ils n'ont été ni entendus ni même écoutés, parce qu'ils expliquaient que le problème Boko Haram n'était pas un simple problème nigérian. Maintenant que la gangrène du terrorisme sanguinaire attaque cette région de notre pays, nous voulons, à notre tour, alerter les hommes et femmes de bonne volonté à travers le monde. En effet, jusqu'à très récemment, les médias ont fait silence sur ce qui se passe au Nigeria et au Cameroun. Bien sûr, ils se sont émus au moment de l'enlèvement des 237 lycéens de Chibok, le 14 et 15 avril 2014. Le monde semblait touché et sensible à cet enlèvement sans précédent. Mais pourtant, rien n'a changé. La série noire d'hostilité et d'atrocité a continué. Et vous entendez parler de cette vidéo où on voit Shekau rigoler franchement à l'idée de transformer ses filles en esclaves, en filles et soldats, et je vous passe le reste. Chaque nuit qui tombe renferme les plus graves dangers pour les populations de la région et notamment celles de la frontière. Aucune nouvelle des filles de Chibok. Et malheureusement, je pense qu'on n'en aura jamais. L'émotion internationale, comme d'habitude, est vite retombée en même temps qu'un voile d'indifférence pudique sur l'épouvantable sort, pourtant sans surprise, de ces malheureuses jeunes filles. Alors, comment prendre conscience qu'elles ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan d'atrocité dans lequel baigne ce coin d'Afrique ? Un autre moment d'émotion internationale a été la découverte du massacre de probablement près de 2000 personnes égorgées ou mitraillées à bout portant dans les alentours de Baga entre le 3 et le 6 janvier dernier. D'innombrables villages sont attaqués et détruits. Des milliers de personnes massacrées ou déportées, personne ne bouge. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Que signifie cette indifférence ? Ne sommes-nous pas ici devant une illustration tragique de ce que notre pape dénonce comme la mondialisation de l'indifférence ? C'est un thème qui lui est cher et qu'il reprend avec force dans son message pour le carême 2015. Quel est aujourd'hui le nombre exacte des victimes de Boko Haram, on ne le saura probablement jamais, on évoque de façon très crédible le chiffre de 15 000 depuis 2009, au Nigeria d'abord et au Cameroun depuis 2013. À celle-là, il faudrait ajouter maintenant les victimes nigériennes. Depuis le 6 février dernier, où Boko Haram a commencé à s'en prendre aussi au Niger. 15 000 depuis 2009, ça fait une moyenne de plus de 8 par jour, chaque jour, pendant 5 ans. Ici, en France, il a suffi des 17 victimes des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly, les 7 et 8 janvier dernier, en région parisienne, pour déclencher une impressionnante et extraordinaire marée d'indignation contre le terrorisme. Notre évêque, Mgr Bruno Athéba, qui a été ordonné évêque le 17 mai dernier, en regardant la télévision, disait « Mais ce qui s'est passé à Paris lors des attentats, nous le vivons tous les jours, ici, et personne n'en parle. » Et on a vu comment et combien certains se sont emparés de cette indignation nationale pour la récupérer de manière scandaleuse et la mettre au service de leurs idéaux en manipulant l'opinion publique par des slogans stupides et réducteurs qui n'ont fait qu'aggraver la situation de populations chrétiennes et musulmanes qui ne demandent pourtant qu'à vivre en paix dans de nombreux pays en développement. Au Nigeria et au Nord Cameroun, nous sommes en situation de guerre depuis des mois et des années. Et cela fait quelques semaines à peine que le monde semble en prendre conscience. Une guerre qui fait des milliers et des milliers de victimes, des soldats bien sûr, et surtout et avant tout des civils qui n'ont rien demandé ni fait pour mériter cela. Le Nigeria semble impotent devant la question. Le président Goodluck Jonathan, qui est candidat à sa succession, a annoncé au moment de reporter les élections qui étaient prévues le 14 février dernier qu'en 6 semaines le problème serait réglé. Alors que le phénomène Boko Haram existe depuis 2002 au Nigeria et que sa volonté de nuisance est clairement affirmée depuis 2009 et que peu à peu il prend le pouvoir sur toute la région nord du pays en faisant à chaque fois reculer l'armée de la première puissance africaine. La récente reprise de Baga, dont on a parlé dans les journaux en Europe, par l'armée nigériane, inaugure-t-elle une nouvelle phase? Il faut l'espérer. Il est vrai que depuis le 16 janvier, le Tchad est entré en guerre aux côtés du Cameroun. Il est vrai aussi que le Niger a promis d'envoyer des troupes et que les pays de la sous-région ont décidé, début février, la mise en place d'une coalition de 8700 hommes. Actuellement, vous avez ici les soldats nigérians. Pour le moment, ce n'est pas grand-chose, il commence à faire un peu. Donc ici, une présence, une petite partie de la force Barkhane française qui est au Niger, qui est basée sinon au Tchad. Les soldats nigériens, nigériens, les soldats tchadiens, et puis l'armée camerounaise qui est en place depuis le mois de mai. Mais cela ne refroidit en rien l'ardeur de Boko Haram, qui, dès qu'il est indexé par l'un ou l'autre pays, réagit par une attaque dans le pays concerné. C'est absolument soufflant. Boko Haram est là, se bat contre le Tchad, contre son propre pays, le Cameroun, le Nigeria, contre le Niger et contre le Cameroun. Tout ça à la fois. Alors la raison de ma présence au Mans, c'est de faire retentir auprès de vous le cri d'angoisse des communautés du Nord Cameroun, tellement menacées et qui se sentent bien souvent oubliées, comme je disais tout à l'heure, du reste du monde. Notre diocèse de Maroua-Mokolo est particulièrement touché. Lui qui, depuis sa création en 1973, je voudrais ici saluer la présence de Annie de Bernon, la sœur de notre l'évêque fondateur de notre diocèse, de regretter mémoire. Qui a, je pense, par son exemple et par la manière dont il a fondé l'Église, permis de nous aider à vivre ce que nous vivons maintenant. Notre diocèse reste très engagé depuis 1973 dans le développement et la promotion humaine de l'ensemble de la population de l'extrême nord du Cameroun. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garder le silence. Un tel gâchis est épouvantable. Depuis 40 ans, au quotidien et au nom de l'Évangile, nous travaillons dans les domaines de la santé, de la scolarisation, du développement agricole, de la promotion des femmes, mais aussi dans le domaine de la microfinance, de l'accompagnement des jeunes et de leur insertion dans la vie active. Au nom de l'Évangile, nous menons avec tous le combat de la promotion de chacun. Et comme le dit le pape Benoît XVI, nous témoignons que l'Église, je cite, « est porteuse de la bonne nouvelle de la filiation divine de toute personne humaine ». Quand on est entre chrétiens, ça ne peut pas dire grand-chose. Quand on est au milieu de musulmans, de gens de la religion traditionnelle, de protestants, de chrétiens de tous bords, et de Boko Haram, de se dire que tout homme est fils de Dieu, ça veut dire quelque chose. Inlassablement, aux côtés de nos frères des autres confessions chrétiennes, de nos frères musulmans et de ceux de la religion traditionnelle africaine, nous œuvrons à l'émergence de cette région déjà très défavorisée de notre pays. La situation d'insécurité nous a contraints à suspendre plusieurs de nos activités. Certains centres de santé et certains établissements scolaires ont dû être fermés. 110 établissements scolaires publics sont fermés dans la région. Des projets en faveur de la promotion des femmes ou de l'accompagnement des jeunes sont arrêtés. Où va-t-on ? Que va-t-on devenir ? Dans une région déjà particulièrement pauvre, cette guerre semble vouloir arracher les unes après les autres les graines d'espérance en une vie meilleure et tout ce qui pouvait redonner sens à la vie de plus d'un million de personnes. Alors nous ne voulons pas être ces chiens muets incapables d'aboyer dont parle le prophète Isaïe. Je voudrais reprendre ici les mots de notre cher pape François qui, le 1er janvier 2014, dans son message pour la Journée internationale de la paix, déclarait « Nombreux sont les conflits qui se poursuivent dans l'indifférence générale. À tous ceux qui vivent sur des terres où les armes imposent terreur et destruction, j'assure ma proximité personnelle et celle de toute l'Église. L'Église a pour mission de porter la charité du Christ également aux victimes sans défense des guerres oubliées, à travers la prière pour la paix, le service aux blessés, aux affamés, aux réfugiés, aux personnes déplacées et à tous ceux qui vivent dans la peur. L'Église élève aussi la voix pour faire parvenir aux responsables le cri de douleur de cette humanité souffrante et pour faire cesser, avec les hostilités, tout abus et toute violation des droits fondamentaux de l'homme. En écrivant cela, il nous a gagné du temps, ça nous a évité de l'écrire nous-mêmes. Les enjeux socio-économiques et spirituels de cette guerre sont énormes. La manière que nous aurons de réagir, chacun d'entre nous, là-bas au Cameroun bien sûr, mais ici aussi, chacun d'entre vous, peut contribuer à faire basculer cette région dans le chaos, ou lui permettre au contraire d'établir un point de résistance à la barbarie qui semble vouloir envahir le monde. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre petit doigt. C'est une menace qui nous concerne tous, et elle ne pourra pas se résoudre par l'exclusion ou le repli frileux. L'autruche qui met sa tête dans le sable prend un grand risque de se faire botter le train. C'est dans la mise en œuvre réelle et concrète de la fraternité qui nous vient d'en haut que nous trouverons ensemble le chemin de la vie. La situation nous a surpris et pris de court. Alors je vais présenter un peu la région et la situation au fur et à mesure des cartes qui vont défiler devant vous. Le Cameroun, vous le situez au fond du golfe de Guinée. Cette espèce de grand triangle avec le bec de canard en haut à droite, la tête on dirait un peu une tête de coq ou de poule. La partie nord qui correspond à l'ancien diocèse de Garoua, fondée en 1946 par la première mission des Oblats de Marie Immaculée en 1946, qui comportait tout ce grand territoire, région sahélienne, le sud étant la forêt. Ensuite, était divisé en trois diocèses, le diocèse de Marois-Bobolo et le diocèse de Yagoua se sont ajoutés au diocèse de Marois. Puis ensuite, le diocèse, le quatrième diocèse, que j'ai oublié de noter ici, de Ngaoundéré, pour la partie plus au sud. Tokombéré se situe donc à l'extrême nord, dans le diocèse de Marois-Bobolo, la partie nord du diocèse, à peu près 1500 km de Yaoundé, la capitale, et de la capitale économique Douala aussi. Marois, où nous sommes actuellement avec le père Christian Orange et les religieuses de la paroisse, déplacées de force par les autorités militaires pour qu'on s'éloigne un peu de la frontière, parce qu'il semblait que nous soyons des ravitaillements, le terme qu'on a utilisé. Nous sommes limitrophes avec l'État du Borno, dont on entend parler dans les journaux maintenant un peu, l'extrême nord-est du Nigeria, et avec la ville de Maïdougouri, dont vous entendez sans doute aussi un peu parler, dont les Boko Haram rêvent de refaire leur capitale, qu'ils n'ont pas encore réussi à prendre, et puis l'État de l'Adamawa, qui longe toute la frontière vers le sud. Et puis, on va entendre un peu parler aussi de l'État de Yobe, un peu plus à l'est, qui constitue le territoire où les Boko Haram sont les plus virulents. Alors, vous avez ici un agrandissement de la région. Depuis 2009, nous entendions parler des méfaits du groupe Boko Haram au Nigeria, mais nous ne nous sentions pas directement menacés. Le Nord Cameroun et notamment ses villages frontaliers de Kolofata et d'Amchidé. Amchidé résonnera peut-être dans la tête de l'un ou l'autre de façon plus forte. Il y a des gens parmi vous qui sont allés avec moi là-bas. C'est une paroisse, une quasi-paroisse, une pré-paroisse, on appelle ça là-bas, un district paroissial qui devrait devenir normalement bientôt une paroisse. Donc, Kolofata et Amchidé ont longtemps servi de base arrière à Boko Haram pour se mettre à l'abri des poursuites de l'armée nigériane, sans toutefois inquiéter les populations locales camerounaises. Les habitants d'Amchidé ont rapporté qu'à l'époque, les membres du groupe terroriste disaient « Nous n'avons pas de problème avec nous, c'est le Nigeria qui a un problème avec nous. Nous mangeons dans la calebasse de Kolbia, donc il n'y a pas de problème. » Kolbia, c'est le président du Cameroun pour ceux qui le savent. Cependant, Boko Haram en a profité pour infiltrer le milieu camerounais, sans doute. Des réseaux d'approvisionnement et des caches d'armes se sont mis peu à peu en place sur le territoire camerounais. On nous rapporte que des femmes transportaient des munitions dans leur calebasse ou dans leur thermos, en venant soi-disant puiser de l'eau ou rendre visite à leur famille. Les moyens de transport en commun et les véhicules particuliers, ainsi que les motos des trafiquants de carburant, qu'on appelle les motos clans d'eau, étaient utilisés notamment sur l'axe N'Djamena-Mora-Amchidé pour le transport des armes légères et des munitions. En 2013, les Boko Haram profitent de la période électorale au Cameroun pour se faire établir frauduleusement des cartes d'identité camerounaises. Alors, ce n'est pas tellement à la gloire des Camerounais, ça je m'excuse pour le Camerounais qui est là, mais pour obtenir des voix pour le parti au pouvoir, on a fait venir beaucoup de Nigériens, de Nigérians. Et pour qu'ils puissent voter, on leur a donné des cartes d'identité. Ils sont partis avec, et ils reviennent maintenant avec, mais accompagnés par la Kalachnikov. Et ils en servent pour déjouer les contrôles et se déplacer au Cameroun sans être inquiétés. L'enlèvement, le 19 février 2013, des 7 membres de la famille française Moulin-Fournier, 3 adultes et 4 jeunes enfants, avaient beaucoup touché l'opinion internationale et à juste titre, a eu un grand retentissement dans le monde. Ce coup médiatique, on peut l'appeler comme ça, semble avoir dopé la capacité de nuisance du groupe Boko Haram, pour diverses raisons. D'une part, ils se sont fait connaître, et d'autre part, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'était un premier avertissement. Beaucoup pensaient alors que c'était avec la France que Boko Haram voulait en découdre. Et ce sentiment allait se renforcer le 13 novembre 2013, avec l'enlèvement du père Georges Van den Heusch. Vous le voyez ici, en haut à droite, à gauche, sur la, au moment de sa libération, et sur la grande photo, il est en train de célébrer la messe avec l'actuel vicaire de la paroisse de Tocombéré, le père Justin, à Tocombéré. Il était venu en pèlerinage quelques semaines avant d'être enlevé. Français lui aussi, on a dit voilà, c'est la France, et peut-être aussi c'est les chrétiens qui sont menacés. Surtout qu'on a fait un lien entre l'enlèvement des moulins fourriers au retour d'un voyage du président Billard en France et l'enlèvement du père Georges Vandenbusch au retour d'un voyage du président Billard au Vatican. Les autorités ont pris ça très au sérieux en pensant qu'il y avait un lien. Probablement, c'est très bien. Fort de ses succès, Boko Haram récidive avec l'enlèvement le 5 avril 2014 de sœur Gilberte Bussière, religieuse canadienne de 75 ans, et des pères Gianpaolo Marta et Gian Antonio Allegri du diocèse de Vicenza en Italie et en service à la paroisse de Nchéré, à la paroisse voisine de chez nous, à 10 km de chez nous. Les nationalités des otages démontrent que l'animosité de Boko Haram n'est pas orientée contre la France seulement. Par ailleurs, les terroristes, en frappant à 70 km à l'intérieur des terres camerounaises, prouvaient par là leur très grande capacité de nuisance, leur connaissance du terrain camerounais et leur mise en place de réseaux de complicité locale. Avant même l'enlèvement des missionnaires de Nchéré, les exactions sur la population civile étaient déjà remarquées sur la ville d'Amchilé, dont je parlais tout à l'heure, et d'autres villages de la frontière. Un mois plus tard, le 16 mai, dans la nuit du 16 au 17 mai, qui précédait l'ordination de notre nouvel évêque, l'enlèvement de 10 ouvriers chinois à Ouaza, dans le diocèse de Yagoua voisin, montre s'il en est besoin que la hargne de Boko Haram n'en veut pas seulement au seul Occident chrétien, mais bien à tous ceux qui travaillent pour le développement et se mettent en travers de sa route. Là, on a vu que ça devenait sérieux. Et le jour même, le président Paul Biya va déclarer la guerre à Boko Haram officiellement. C'est aussi à cette époque que Boko Haram se met à diffuser des vidéos sanglantes par le biais des téléphones portables. Il commet des atrocités ciblées pour intimider la population. Décapitations rituelles, coupage de langue, manducation de dattes trempées dans le sang humain des personnes égorgées, consommation de sang humain dans les calebasses. Le tout accompagné de l'éternel refrain « Allahu Akbar, Dieu est grand », comme si Dieu pouvait se reconnaître dans une telle zone. Le 17 mai, je le disais, enfin convaincu de la gravité de la situation, le président Paul Biya déclare la guerre à Boko Haram. Quand un président déclare la guerre, les choses se déclenchent. Et donc l'armée a commencé à se mettre en position le long de la frontière de façon systématique. Les choses vont très vite monter en puissance. Le sérieux accrochage entre les combattants du groupe islamiste et les forces armées camerounaises commence en différents lieux de la frontière, dès la fin du mois de mai. Le harcèlement incessant va commencer contre les villages frontaliers. Peu à peu, la panique va gagner les populations camerounaises. L'enlèvement, c'est une spécialité chez Boko Haram, de personnalités camerounaises et de membres de leur famille à Kolofata, le 27 juillet 2014, la femme du vice-premier ministre et des notables de la ville de Kolofata, lors d'une attaque meurtrière où de nombreux innocents trouvent la mort, dont un chrétien de notre communauté qui devait être baptisé le dimanche suivant, finit de démontrer que la haine de Boko Haram est orientée contre tous ceux qui se mettent en travers de leur projet et que le Cameroun est bien au nombre de ses ennemis. Depuis fin juillet 2014, d'incessantes attaques, souvent menées par de petits groupes lourdement armés circulant en moto, avec 3 ou 4 passagers par moto, viennent semer la panique dans les villages de la région, jusqu'à une trentaine de kilomètres à l'intérieur des terres. La fin de la saison des pluies, favorisant les déplacements par les pistes de brousse, n'a fait qu'augmenter le phénomène, rendant la tâche de l'armée encore plus ardue. Certaines attaques plus spectaculaires, au cours desquelles plusieurs centaines de combattants Boko Haram sont entrés en jeu, ont démontré la capacité de frappe de Boko Haram, son niveau élevé d'équipement lourd, et l'évidente professionnalisation de certains combattants, ainsi que le grand réseau d'informateurs installés sur le territoire. Alors évidemment, ça pose une question. L'approvisionnement en armes aussi sophistiquées, bien évidemment, une grande partie a pu être écoulée. récupérer sur l'armée nigériane, c'est évident, qui ne s'est pas beaucoup battue et qui a beaucoup fui. Le reste provenant du trafic d'armes permanent dans la région sahélienne. Alors là, si vous allez dans les journaux, vous allez entendre tout et le contraire de tout. On accuse la France, on accuse les États-Unis, on accuse de fournir Boko Haram en armes. On entend toutes sortes de choses, mais ce n'est pas très étonnant qu'on retrouve des armes françaises. Étant donné le nombre d'armes qu'on a livrées à tous les pays en guerre, elles se promènent à travers le monde. Les armes, une fois qu'on les a lâchées, c'est comme la rumeur, on ne peut pas l'arrêter. Les Boko Haram sont chez eux tout le long de la frontière du Borno et d'une partie de la frontière de l'Adamawa. Quand je dis chez eux, c'est chez eux. Moi, j'appelle ça Boko Haram Land. Il n'y a plus d'administration, il n'y a plus d'armée nigériane, ils sont chez eux avec leurs drapeaux, leurs... La charia est déjà à l'œuvre. Donc dans la partie là, ici à la ville. Alors vous voyez que le principe, c'est pour eux d'encercler progressivement la ville de Maïdigouri. Et à partir de cette région où ils sont chez eux, ils font d'incessantes incursions un peu partout. Et là, vous voyez que ça commence à devenir chaud pour eux. Et que c'est déjà très chaud pour nos frères qui sont sur la frontière. Dans une vidéo du 24 août 2014, Aboubacar Shekau va jusqu'à déclarer Ouaza, ville du nord-est du Nigeria, siège du califat islamique. Et le même jour, il prête allégeance à al-Baghdadi, lequel d'ailleurs, je crois, n'a pas répondu. Pour quelle raison, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il s'inspire certainement de ce qui se passe avec Daesh. Ces troupes font d'innombrables incursions en terre camerounaise et se replient en territoire nigérian, souvent avant que l'armée camerounaise n'ait pu réagir. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui pourraient presque donner le nom des montagnes qu'on voit ici, qui étaient juste à côté. Là, une fois passé la frontière, sans être aucunement inquiétés par l'armée nigériane, ils se permettent de narguer les soldats camerounais qui n'ont pas le droit d'intervenir au-delà de la frontière. Alors, la carte présente un aperçu des zones sans cesse menacées. Je vais commencer maintenant une litanie d'un certain nombre d'horreurs qu'on a pu vivre, et je pense que c'est important qu'on puisse le partager. Tourou. Le dimanche 21 septembre 2014. Une vingtaine d'individus lourdement armés surgissent en moto de la route venant du Nigeria en direction du village de Tourou. Ils tirent à bout portant sur tout ce qui bouge et poursuivent les villageois qui s'enfuient jusque dans les champs. Ils vont tuer un nombre considérable de personnes sur le marché de Tourou. Parmi eux, deux responsables catholiques qui revenaient de la célébration de la parole dans leur communauté. Je voudrais ici rendre un hommage particulier à Luc Berquet, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, administrateur du district paroissial de Lubam-Tourou. Quelques jours avant sa mort, il avait écrit à l'évêque du diocèse de Yagoua, Mgr Barthélémy Mologa, « Avec Esther, nous savons que nous sommes en danger, mais nous avons réfléchi et nous avons fait le choix de rester auprès de ceux à qui l'Église nous a envoyés. » Esther nous a raconté qu'elle a passé plusieurs heures à marcher au milieu des cadavres dans le sang pour retrouver son mari. Ensuite, ils continuent leur massacre dans deux autres marchés voisins et brûlent une chapelle protestante. Bilan 42 morts. Des habitants réussissent à tuer 4 Boko Haram avec le matériel qu'ils ont, des lances et des machettes. Mabas, un peu plus au nord. Dimanche 18 janvier 2015, autour de 6h30, alors que les populations du village venaient juste de sortir de leur sommeil, certaines assises autour du feu, à l'époque il fait un peu froid, pour se réchauffer contre le froid matinal, les assaillants répartis en deux groupes ont fait irruption dans ces villages, tirant des coups de feu nourris en scandant à la Wakbar. Ils se sont mis à poursuivre les populations, incendiant toutes les maisons et greniers où les récoltes viennent d'être entreposées. Et ça, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens et les populations pratiquant la religion traditionnelle. Les plus vaillants ont pu s'échapper par la force de leurs jambes, d'autres ont eu moins de chance et ont été pris en otage. Les lieux de culte n'ont pas été épargnés. Les chapelles de l'église catholique et de l'église baptiste ont été prises pour cible. La chapelle baptiste entièrement détruite, la scène de l'église catholique profanée, le crucifix, l'autel, les documents religieux, le matériel de musique religieuse détruit. Et les assaillants sont repartis tranquillement au Nigeria avec leurs otages bien avant l'arrivée des soldats dans la localité, ayant 4 morts seulement et 34 femmes et enfants enlevés. Getchewe, on a entendu parler forcément, c'était la mission du père Georges Van den Bush. C'est un des villages les plus touchés depuis le début des hostilités. Au village de Balmwell, qui est une des communautés de la paroisse, dans la nuit du 26 décembre, lendemain de Noël, vers 19h, plus d'une centaine de personnes armées, dont plusieurs enfants d'environ 12 ans, ont pris d'assaut le village, toujours au cri de Allahu Akbar. Ils encerclent le village, puis se mettent à piller les maisons en emportant chèvres, moutons, avant de mettre le feu et de tuer tout ce qu'ils croisent. La plupart des personnes tuées sont ensuite jetées dans les flammes. Plusieurs familles ont été bloquées et consumées directement par les flammes. L'alerte donnée par les survivants n'a rien donné. Les assaillants ont opéré tranquillement jusqu'à 23h avant de repartir vers le Nigeria, accompagnés de quelques jeunes filles et femmes pour les aider à conduire les animaux. Craignant de se faire repérer par les forces de l'ordre, il décide de renvoyer les femmes. Bilan 37 morts. Je voudrais là aussi m'arrêter. Certains dans la salle ont connu les gens dont je vais parler maintenant. Thomas Corassi, le fondateur de la communauté chrétienne de Balmwell. Ses deux fils, Simon Renava et Thomas Paradis, qui ont été tués. Plus une de ses deux filles qui était venue voir son beau-père ce jour-là avec ses enfants et qui a été tuée avec ses enfants. Kolofata, 27 juillet 2014, une grande troupe de Boko Haram très lourdement armée scelle la panique dans le village, en tirant en l'air et en s'en prenant au domicile du vice-premier ministre dont je parlais tout à l'heure, Ramadou Ali. Il prend une de ses épouses en otage, tue plusieurs employés ainsi qu'un garde du corps. Le ministre n'était pas là, il était en route pour arriver, ils se sont trompés sur l'information, il est arrivé pour découvrir la pagaille. Il s'empare ensuite du maire de la localité, qui est également l'amido, chef traditionnel, de son épouse, de 4 de ses enfants et d'une de ses nièces. Ils seront libérés le 11 octobre. Alors, ici, vous avez André Sevda, l'administrateur laïque du district de Kolofata, pareil, une paroisse en fondation. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore là-bas. Puis je profite de l'occasion pour rendre hommage à mes anges gardiens. Vous n'avez jamais vu votre ange gardien, je pense. Moi, je le vois tous les jours. Et je confirme ce que ma maman me disait toujours quand j'étais petit, toi, t'en as sûrement deux, les anges gardiens, parce que vu ce qui t'arrive et que tu arrives à être encore en bonne santé, c'est vrai, j'en ai deux. Je ne les imaginais pas comme ça. Mais je rends hommage parce que ce sont des soldats, pour la plupart des jeunes, qui au risque de leur vie viennent nous défendre. Alors, ils sont contents quand ils sont avec nous parce qu'ils ne sont pas au front, tout moins dangereux. Mais ils savent très bien que si un jour on vient nous attaquer, c'est eux qui vont courir les premiers. Donc, leur présence ne sert à rien, simplement qu'à dire que le Cameroun est content qu'on soit là et qu'ils marquent par cette présence. Ils savent qu'ils sont des fusibles, ils sont parfaitement conscients. La plupart sont des chrétiens. Et on a souvent des discussions intéressantes avec eux. Amchide, la fameuse paroisse dont je parlais tout à l'heure, 15 octobre 2014. La ville d'Amchide est assaillie par plusieurs centaines de combattants dont la plupart sont très jeunes, encore une fois. 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ils sont venus à pied ou à bord d'une vingtaine de pick-up. Un char à chenilles volé à l'armée nigériane couvre l'opération du côté Boko Haram. Une voiture piégée lancée à vive allure contre le camp de la brigade d'intervention rapide, c'est les troupes spécialisées, elle explose juste avant d'arriver au camp. Les militaires ripostent et détruisent le char à chenilles. Les Boko Haram pénètrent en ville, comme ils ne sont pas en uniforme, ils se mélangent à la population très vite, et ils y commettent des atrocités contre la population. boissons, aux auberges, aux commerces, aux agences de transfert d'argent, aux édifices religieux, catholiques et protestants. La population fuit, laissant derrière elle tous ses biens. Très nombreux morts à cause de balles perdues. Un certain nombre de personnes, jeunes et adultes, égorgées, voire même décapitées. Le lendemain, certains cadavres ont été retrouvés en pleine rue avec la tête posée sur le dos. Depuis, nous avons décidé de fermer la communauté chrétienne et le responsable est retourné dans sa communauté d'origine. Toute la population a fui et c'est inacceptable. Ouaza. Alors, oui, ici, le petit reste de la communauté d'Amchité, avant le 14 octobre, on était allé visiter, et c'est une communauté dans laquelle nous sommes allés avec Mgr Losseau, avec une grande émotion. Nous avons eu la visite de Mgr Losseau, et là je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois et vous rendre hommage, a été, pour moi évidemment, mais pour eux, d'un réconfort énorme. Ça leur a permis de vivre et d'affronter la suite, avec de se dire que un responsable chrétien avait quitté son pays, la France, pour venir les visiter, rien faire pour eux, et voulaient qu'on fasse, mais être là, simplement. Et puis ensuite, avec eux, être allé rencontrer l'imam de la mosquée voisine, ça a été une grande étape, et ça reste pour eux une grande étape dans l'histoire. Le responsable, ici, là, le jour de l'enterrement de Luc, son collègue, émouvant évidemment, les deux responsables des deux districts de la région dont je m'occupe, de la zone dont je m'occupe, étaient là évidemment, parce que Luc était originaire de chez nous, étaient là avec leur femme. À la fin de la messe, je les ai appelés, je leur ai dit on va faire comment. Alors les deux m'ont répondu, mais vous avez compris mon exemple que nous a donné Luc ou pas? On y retourne. Hein. Alors, Ouaza, si vous allez dans une agence de voyage, maintenant ils ont peut-être oublié depuis le temps, mais c'est un des coins réputés pour le tourisme, un parc naturel avec des animaux, etc. Donc, 1er janvier 2015, c'est là qu'on a attaqué, et les moulins fourniers sortaient de la visite de Ouaza quand ils ont été arrêtés. C'est là qu'on a arrêté les 10 Chinois aussi. 1er janvier 2015, bonne année, un quart de transport de civils, alors les petits cars, comme on en trouve partout, tombe dans une embuscade de Boko Haram sur l'axe Ouaza-Mora. Les djihadistes égorgent 11 personnes et en blessent 6 autres. Certains passagers sont portés disparus. Photocall. Alors, photocall, vous en avez entendu parler récemment, je pense, si vous lisez les journaux. 3 février 2015, c'est tout récent. L'armée tchadienne attaque la ville frontalière de Gamboru, qui est la partie nigériane de Fotokol, après avoir effectué la veille un important pilonnage d'artillerie. Le bilan de l'opération s'élèverait à 200 morts dans les rangs de Boko Haram. L'armée tchadienne se met au travail, ils savent ce que c'est que la guerre dans le Sahel. En représailles, et malgré des pertes très lourdes, le 4 février, donc le lendemain, les islamistes attaquent la ville de Fotokol en contournant les Tchadiens avec l'aide de complices venus des villages nigérians environnants. Ils égorgent et massacrent plus de 400 personnes dans la journée, ou au moins un imam, et la plupart sont des musulmans dans les mosquées. Ça permet d'ailleurs probablement de repérer quelles sont les mosquées favorables à Boko Haram et celles qui ne le sont pas. Ils incendient une vingtaine de maisons, 4 boutiques ainsi que l'hôtel de ville et la grande mosquée. Bagarre, nous en avons parlé déjà, je n'y reviens pas, les 2000 morts, deux jours avant Charlie Hebdo, ils sont passés aux oubliettes, parce que c'est quand même moins intéressant que Charlie Hebdo. Cette litanie de l'horreur, que je vais arrêter là, parce que sinon on va y passer la nuit, ne donne qu'une pâle idée, malheureusement, de l'incessant harcèlement qui pèse sur nous. Le nombre d'attaques et d'incursions Boko Haram dans la région est incalculable. Pour les 6 derniers mois, avec les informations que j'ai pu ramasser, officielles, on compte au moins 120 incursions meurtrières en 6 mois. C'est quand même beaucoup, quoi. Sans compter, au Cameroun seulement, sans compter les innombrables attaques au Nigeria pendant ce temps-là. Il est important de noter que s'il y y a parfois des moments de répit, la violence ne fait qu'augmenter, contribuant ainsi à la démoralisation des populations. L'axe Mora Djamena, en passant par Ouaza, principale voie de commerce entre le Cameroun et le Tchad, est devenu totalement impraticable. L'usage des mines depuis fin octobre a provoqué a marqué une étape dans la stratégie de terreur mise en place par Boko Haram, portant ainsi un grand coup au moral des troupes camerounaises. Rien de pire, les militaires disent souvent que les mines, on attaque quelque part, on est prévenu, on va à toute vitesse pour essayer d'aller sauver les gens qui sont là, et puis, tac, à ce coup, on voit la voiture de devant qui explose et les copains qui se dispersent dans la nature. L'utilisation de l'armée de l'air par le Cameroun depuis le 28 décembre 2014 semble avoir redonné un peu de courage aux soldats, mais n'a pas empêché la multiplication des opérations de harcèlement menées par Boko Haram. L'armée camerounaise prend peu à peu le contrôle des axes commerciaux, mais par là, elle provoque une crise de ravitaillement chez Boko Haram, et donc, ils vont se mettre à multiplier les razzias dans les villages frontaliers, et ça donne lieu à des scènes de violence inouïe qui participent à la montée de la psychose de la population locale. Tout ce que je vous ai raconté un peu avant, ça participe de ça. Des milliers de bœufs sont volés, emmenés au Nigeria, ou sont déplacés par leurs propriétaires à l'intérieur des terres au Cameroun, ce qui donne lieu à de grandes frictions entre éleveurs et agriculteurs et permet une infiltration aussi des éléments de Boko Haram à l'intérieur du pays, bien comme des bergers, mais bon. De très nombreux jeunes Camerounais sont recrutés ou enlevés de force pour grossir les troupes de Boko Haram et fournir de la chair à canon. Les communautés musulmanes constituent le vivier principal de recrutement du groupe islamiste, et ceux d'entre eux qui s'y opposent subissent la même violence que les autres groupes de la population. Après leur avoir donné un semblant de formation, les avoir fanatisés et drogués avec notamment le tramol, qui est un dérivé du tramadol, que l'on trouve en vente libre sur tous les marchés de la région, bien la dissolution, la colle à rester. Les Boko Haram envoient tous ces enfants, toujours les enfants en première ligne, pendant que les combattants professionnels préparent et exécutent les opérations à plus haute technicité. Le travail, si on peut appeler ça un travail, des plus jeunes consiste parfois seulement à crier à la Wakbar pendant que les attaquent ou à incendier les maisons et les récoltes. On m'a raconté l'autre jour l'arrestation à Mokolo d'un certain nombre de membres de Boko Haram, et parmi eux, il y en avait un de 12 ans qui se vantait d'être un spécialiste de l'égorgement. 12 ans. Et il est content. Le 27 décembre 2014, démantèlement du centre de formation de Kirvilik au Cameroun. 84 enfants de 7 à 15 ans à l'école pour se former à égorger, à tirer à la Kalachnikov, etc., encadrés par une quarantaine d'adultes en plein territoire camerounais. Tout ça, ça s'ajoute aux nombreux témoignages qui montrent que plus de 2000 jeunes camerounais ont été recrutés ces derniers mois. On m'a dit qu'il y en avait un bout de Tombéré, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. En tout cas, ils ne sont pas nombreux. Par ailleurs, nous savons que parmi les combattants de Boko Haram se trouvent aussi des jeunes filles. Actuellement, les kamikazes qui se font sauter sur les marchés au Nigeria, ce sont la dernière fois, c'était une fillette de 7 ans qui s'est fait sauter elle-même. Alors pourquoi ? Manipulée, droguée, c'est épouvantable. On a retrouvé des jeunes filles parmi les cadavres que les terroristes n'avaient pas eu le temps de remporter avec eux lors des batailles récentes. Souvent, ils les ramènent avec eux, d'une part pour qu'on ne puisse pas les compter, pour les enterrer probablement, mais aussi pour qu'on ne puisse pas récupérer les fortes sommes d'argent qu'ils ont dans les poches. Les militaires disent ça souvent, et d'ailleurs ils le disent parfois à leur pouvoir, et pas toujours, que souvent, quand ils ramassent les cadavres, ils ont beaucoup d'argent, et souvent ils se partagent l'argent. Certaines attaques du groupe Boko Haram sont visiblement des expéditions punitives destinées à se venger de traîtres ou de dénonciateurs que l'on n'hésite pas à venir chercher jusque dans les villages éloignés de la frontière pour les égorger sauvagement en signe d'avertissement. Alors, toutes ces horreurs ont entraîné une arrivée massive de réfugiés du Nigeria dans un premier temps. Bon, l'histoire des gorgements, vous comprenez que je n'ai pas mis de photo. On en a à disposition. Donc les réfugiés du Nigeria, d'abord, leur nombre ne cesse d'augmenter chaque jour. De 19 000 réfugiés avant Noël 2014, le camp de Minawao, qui est dans notre diocèse, le camp du HCR, est passé à 31 355 à la date du 26 janvier, 7 800 familles. Bien évidemment, cela ne prend pas en compte ceux qui sont encore dans la nature, ni les Nigérians qui sont partis vers le Niger, le Tchad, le sud du Nigeria. RFI parlait en date du 23 janvier de 100 000 à peu près de réfugiés partis dans tous les sens. La plupart ont été amenés par des camions du HCR qui sont venus chercher les réfugiés dans certains villages camerounais frontaliers, notamment à Mora, mais aussi dans les villages plus proches, Mozogo, Koza. D'autres se sont débrouillés pour louer des camions pour fuir devant la mort. Les autres font la route à pied, ce sont d'interminables files de malheureux qui sillonnent les routes de la région au péril de leur santé et parfois de leur vie. Ici, je crois que la photo a été prise à Djenia, pour ceux qui connaissent dans le col de Djenia. C'est tous les jours là-bas que ça passe. Ceux qui sont au camp de Minawao sont pris en charge par tout un ensemble d'organisations non gouvernementales. Et même si leur situation est difficile, ils ont au moins de quoi survivre. Notre grande préoccupation va à l'encontre de ce qu'on appelle les déplacés camerounais. Ils ne sont pas réfugiés parce qu'ils sont dans leur propre pays et ils ont fui quand même pour éviter l'horreur. Ils sont éparpillés un peu partout dans la nature et se retrouvent à la charge de familles déjà très démunies qui voient parfois leur nombre de couches à nourrir doublé ou triplé là où ils n'avaient déjà qu'à peine de quoi vivre. D'où le problème. C'est la raison de la quête de ce soir. Et des jours qui viennent. Il nous faut absolument aider la Caritas diocésaine qui se retrouve bien seule devant le problème. Nous avons évalué dans un premier temps les besoins à plus de 300 000 euros. Nous en avons déjà trouvé 100. Nous espérons un coup de main de certains organismes comme le CCFD. Et merci à vous déjà de ce que vous pourrez faire pour aider peut-être à l'occasion du carême, pour venir en aide à ceux qui les assistent. On expliquera tout à l'heure, les Tétonines sont déjà là. Vous aurez même des reçus pour les demandes de reçus fiscaux, si vous voulez. Problème. Il aurait fallu du temps pour décrire la catastrophe économique qui s'abat sur la région de l'extrême nord du Cameroun, connue déjà pour être la plus pauvre du pays. Le seuil de pauvreté est fixé officiellement, paraît-il, à 740 francs CFA par jour, équivalent à 1,12 € par adulte, par équivalent adulte. Or, chez nous, plus de la moitié de la population, d'habitude, pas dans la situation actuelle, d'habitude, vit avec environ 350 francs CFA par jour, soit un demi-euro. Donc pour nous, le seuil de pauvreté, c'est l'Eldorado. On le regarde comme ça. On se dit, si seulement on pouvait atteindre le seuil de pauvreté, on serait bien. Depuis 2012 et la montée de l'insécurité, l'économie de la région est littéralement morte. Aucun secteur de l'économie ne fonctionne normalement. Le secteur touristique, qui était la première ressource de la région, est tombé à zéro. Ce qui a des répercussions terribles dans le secteur artisanal, évidemment, l'hôtellerie et tout ce qui est lié. Le secteur agricole, qui est pratiqué par plus de 80% de la population, est sinistré. Pendant la saison des pluies, plusieurs personnes ont été assassinées alors qu'elles étaient occupées avec un gros champêtre, ce qui a contraint certains à abandonner leurs parcelles pour s'enfuir. Dès le début des récoltes, de nombreuses parcelles de champs ont été incendiées, ce qui a rendu une récolte impossible dans certaines localités. De nombreux villages aux terres cultivables ont été désertés. La Sodecoton, qui est le gros organisme, la grosse coopérative d'achat du coton, qui achète habituellement le coton aux producteurs, n'a pas pu récupérer le coton dans les villages, bien que le coton ait déjà été pesé et évalué. Les paysans n'ont pas été payés. Tout ça compromet sérieusement la situation. sécurité alimentaire des populations de la région de l'extrême nord, ainsi que la prise en charge des besoins de première nécessité. Une famille sur deux risque fortement de connaître la famine cette année 2015. Et comme en plus on n'a pas pu, dans beaucoup d'endroits, travailler les champs, on commence rebelote l'année prochaine. Le rapt du bétail par les amarrés dans les villages et sur les marchés a provoqué une émigration des cheptels bovins. Les attaques récurrentes des marchés par les Boko Haram ont provoqué la fermeture de certains marchés hebdomadaires, qui sont pourtant les lieux par excellence de commercialisation des produits. Alors malgré la présence de forces de l'ordre pour sécuriser les marchés dans la journée, les Boko Haram sont bien renseignés. Dès que les militaires ont fait des tours, ils arrivent et ils font leurs affaires. Les autorités administratives, pour éviter l'infiltration, ont interdit la circulation de motos dans la région, au moyen en quoi les agriculteurs ne peuvent transporter leur production. Problème. Et cerise sur le gâteau, la région est de plus en plus abandonnée par les organisations d'aide au développement qui n'osent plus s'aventurer dans la région. En outre, les associations locales de développement, même les plus fiables, ne reçoivent plus d'aide car les ONG n'accordent pas de financement de peur que ces subventions servent à beaucoup. Le chômage, qui est déjà massif chez les jeunes faiblement scolarisés, ne fait qu'augmenter. C'est donc une bonne occasion pour Boko Haram de venir recruter des gens. On leur propose un salaire mirobolant allant jusqu'à 500 000 francs CFA par mois, ce qui fait 760 euros. Là-bas, c'est énorme. On entend couramment les jeunes qui disent « Les enfants pauvres n'ont plus besoin de présenter des concours au Cameroun. Le gouvernement camerounais nous refuse l'entrée dans la fonction publique. On gagnerait 100 000 francs CFA. » Alors que Boko Haram, sans concours, nous propose 300 à 400 000 francs CFA. Donc on y va. Le problème, c'est qu'on nous donne 300 000 francs CFA, on leur donne des femmes, on leur donne... Voilà. Et puis une fois qu'ils sont bien pris, on les drogue, on les fanatise, on leur dit maintenant pour la suite, pour le deuxième versement, je ramène la tête de ton père. Et si tu changes d'avis, eh bien c'est la tienne qu'on va ramener. C'est le problème. Alors tout ça, c'est un problème. Notre diocèse, le diocèse lui-même en tant que structure d'église, a été privé d'une grande partie de ses forces vives et contraint aussi à fermer certaines structures de développement. Voilà notre diocèse, je vous évoquais tout à l'heure, ici, le pasteur, Philippe Stevens, qui a été évêque jusqu'au mois de mai l'année dernière, notre nouvel évêque, Simon Boudot, qui se demande ce qu'il est venu faire dans cette galère. De nombreux ouvriers apostoliques sont partis, la plupart par obéissance à leur congrégation ou sur pression de leurs ambassades. À titre d'exemple, pour notre simple diocèse de Maroua-Bokolo, sur le personnel, 56 prêtres, 12 sont partis. 18 diacres permanents, aucun n'est parti, bravo. Ils ont des familles dans les voilà. 13 religieux non prêtres, 2 sont partis. 104 religieuses, 47 sont partis. Pour les communautés chrétiennes, au-delà des questions pratiques que cela pose, c'est une véritable interrogation. Vous nous avez annoncé une parole, et puis vos chefs, quand ils ont vu que vous étiez en problème, ils vous ont demandé de rentrer. Eh bien, vous allez vous mettre à l'abri. Certains missionnaires expatriés restent contre vent et marée. 12 prêtres africains d'autres pays d'Afrique, 5 européens, 1 sud-américain. Les religieux non prêtres, 2 africains, 1 nord-américain. Les religieuses, 15 africaines, 3 européennes. Le clergé local, prêtres et diacres permanents et les religieuses qui ont pu rester font preuve d'un grand courage, malgré la peur et les nuits sans sommeil. Avec l'aide de nombreux catéchistes, ils assurent une présence, là où c'est encore possible, auprès des populations. Ils ont dû fermer certains centres de santé, certaines écoles, comme je le disais, beaucoup d'enfants se retrouvent dans la nature et vont perdre leur année scolaire. Ce qui n'en sera pour l'année prochaine, on ne sait pas. Et cependant, nous notons avec admiration que malgré la peur et le danger, de nombreuses communautés chrétiennes continuent à se rassembler pour la prière, comme autant de petites luciole de foi allumée dans la nuit. Et là, je voudrais faire un témoignage. On a l'habitude à te repérer tous les ans, au mois de janvier, vers mi-janvier, de faire ce qu'on appelle les journées de promotion humaine, qui rassemblent les responsables de tous bords, de toutes confessions religieuses, d'agriculture, de santé, de promotion féminine, d'éducation, des écoles, tout ça. À peu près 1200 personnes qui se rassemblent pendant 3 jours pour réfléchir sur nos activités et l'année qui vient. Là, avec la famille et le déplacement, tout ça, on n'a pas pu organiser ça. 8 jours après la date habituelle, on a vu des paysans commencer à venir chez nous en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez oublié qu'il y avait des journées de promotion humaine ou pas ? On attend quoi pour mettre ça en route ?» On a dit « Bon, d'accord, on y va. » On s'est rassemblés avec les responsables, on a dit « Qu'est-ce qu'on va choisir comme thème cette année ?» Et ça nous a beaucoup touchés parce que le thème qui a émergé très vite de la discussion, c'est... Alors, je vous rappelle qu'on s'assied ensemble, chrétiens, de toute confession, les adventistes aussi, les gens de la région traditionnelle, les musulmans. Le thème qui a été retenu pour les journées qui auront lieu au mois de mars, être homme ou femme, aujourd'hui à te convaincre, ça veut dire quoi? Et les questions qui ont été posées pour préparer cette assemblée, qui suis-je aujourd'hui comme être humain, en tenant compte de mes racines, en tenant compte des questions nouvelles qui se posent, en tenant compte des blocages que je rencontre partout, que puis-je espérer? Quels sont mes objectifs et mes désirs? Comment m'ouvrir à ceux des autres? Et puis, troisième question, que pouvons-nous faire pour atteindre ensemble ces objectifs? Et moi, que puis-je faire là où je suis? Quand même intéressant. Alors, malgré tout ce contexte très tendu, très angoissant, je voudrais témoigner, ça c'est un autre aspect de mon intervention, que les relations interreligieuses restent sereines. Ça c'est une assemblée de journée de promotion humaine, hein, je vous parlais que c'était en 2008. Donc les relations interreligieuses restent sereines. La proportion, bon, les chiffres sont un peu discutables, mais bon, je crois qu'on peut quand même se mettre d'accord là-dessus. La grande partie de la population reste encore de religion traditionnelle, 47%. Les musulmans, en étant un peu généreux avec eux, 35%. Et les chrétiens, tout confondu, 18%, dont une dizaine de pourcents de catholiques. Mais les catholiques sont extrêmement engagés, présents sur tous les fronts de la promotion humaine, donc très influents dans la. Après un silence qui nous a beaucoup inquiété, la communauté musulmane camerounaise se positionne de plus en plus clairement contre Boko Haram, depuis notamment décembre 2013, en lui niant le droit de se prétendre musulman. Seulement, il faut qu'on fasse attention. Moi, j'étais un peu comme les amis musulmans de la région de l'Extrême Nord, à dire que c'est vrai que ce sont des musulmans, ce sont des barbares, je l'ai même écrit dans certains de mes courriers. Plus j'avance et plus j'écoute la réflexion qui se passe dans le monde musulman, et plus je pense que ça n'est pas respecter nos frères que de dire qu'ils ne sont pas musulmans. Ce n'est pas respecter non plus nos frères musulmans qui ne sont pas aussi barbares qu'eux. Boko Haram, c'est une émanation de l'islam. Et il faut, c'est urgent, que nos frères musulmans se posent la question: comment avons-nous pu engendrer un tel monstre? Il faudrait que nous, chrétiens, puissions nous poser les mêmes questions s'il arrivait les mêmes problèmes. Comment avons-nous pu laisser naître et se développer ce genre de choses au sein de notre... Soit c'est que l'islam ne vaut pas la peine, soit c'est que nous n'avons pas mis les verrous qu'il faut et que nous n'avons pas su nous adapter. Il y a une réflexion à mener et il faut que nos frères musulmans la mènent, et nous avons le devoir et la vocation de les aider dans ce domaine, non pas en les matant ou en les supprimant, en aidant à la réflexion. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à lire la lettre ouverte à mes frères musulmans de, comment il s'appelle, Bidard, c'est un philosophe français, spécialiste musulman, qui l'a écrit le 10 janvier, on l'a trouvé. responsabilité. Chez nous, dans les 30 dernières années, il y a eu un grand changement dans l'islam du Nord Cameroun. On a senti que ce changement était le fruit de l'influence des courants réformistes, salafistes ou wahhabites, appuyés notamment par la dawa saoudienne et pakistanaine. La dawa, c'est la paix à l'islam. C'est les courants, je veux faire des comparaisons, c'est un peu plus catholique, le ramadan, c'est le carême des musulmans. Mais on pourrait dire que la dawa, c'est l'évangélisation des musulmans. Fortement appuyé par l'Arabie saoudite et plus récemment par le Qatar. Ça fait parfois un peu rigoler de voir des gens crier « Je suis Charlie » et deux jours après se mettre à quatre pattes devant le roi d'Arabie. Ça pose une question. L'encadrement des populations par tout ce courant est très bien fait. Et de fait, il y a un progrès qui se fait dans les écoles, dans la formation, etc. Alors tout ça, ça ne veut pas dire encore islamisme radical. Mais les éléments sont là pour pouvoir passer à l'islamisme radical. Alors la frontière, elle se trouve où? Eh bien, cette réforme islamiste, elle devient islamisme radical quand elle adopte un projet politique précis de société islamique. Donc, on supprime tout ce qu'il y a autour de nous et on installe la charia. Et pas oublier que l'islam saoudien véhicule une vision de la religion qui est dogmatique, littéraliste, puritaine et complètement rétrograde. Elle n'est pas du tout adaptée au monde dans lequel nous sommes. Il n'y a eu aucun travail qui a été fait. Et il n'y a absolument plus de gens qui ont un travail qui soit fait. Et c'est ce courant-là qui a donné naissance à Al-Qaïda, Al-Nusra, Al-Qaïda, l'État islamique, Boko Haram, etc. On attend les autres. Alors, dans notre région, la communauté islamique, enfin la communauté musulmane, n'a pas franchi la limite d'avoir un projet politique pour imposer une société islamique. Et ils se sont même démarqués publiquement du groupe Boko Haram. Ce qui fait que dans les deux dernières années, eux aussi ont subi de très nombreuses violences de la part de Boko Haram. Et c'est donc avec eux que nous portons cette souffrance. Ils sont les ennemis numéro un de Boko Haram. Ils sont des traîtres aux yeux de Boko Haram. Nous, on est des salauds. Moi, on est des traîtres. C'est pourquoi nos rencontres entre chrétiens et musulmans dans notre région n'ont fait qu'augmenter. Des rencontres qu'on vit dans la sérénité, dans la franchise. J'évoque juste, pour faire vite, les week-ends de formation que nous avons organisés dans le secteur dont je suis vicaire épiscopal, ainsi que l'inauguration récente de la maison de la rencontre à Marois. Elle abrite un centre de documents, ça c'était la semaine dernière, juste avant la veille de mon départ ici. Elle abrite un centre de documentation islamo-chrétien comprenant les principaux ouvrages classiques de l'islam et du christianisme. Ça sera aussi le centre local de l'ACADIR, l'Association camerounaise de dialogue interreligieux, et le lieu de toutes nos rencontres interreligieuses, sans oublier les activités de jeunes. Les tensions qu'on retrouve entre chrétiens et musulmans dans certains pays voisins n'existent pas chez nous. J'avais l'impression de dire n'existent pas encore, mais non, je dis n'existent pas. Leur donner envie d'exister. Même si certains, d'un côté ou de l'autre, voudraient attiser les passions et réduire le problème à un problème de religion, quand même, ça c'est plutôt ici en France, des gens qui disent supprimons la religion, on ne cédera plus de conflit. Intelligent, quand même. L'Église catholique locale sait que son travail ne se résume pas à assurer l'administration spirituelle d'une partie de la population, mais qu'elle a pour vocation, comme je le disais tout à l'heure, d'annoncer ou de témoigner de la fraternité universelle. Elle souhaite pouvoir continuer à le faire dans les meilleures conditions possibles. Alors pour conclure, même si ça sera un peu long comme conclusion, quelle est la place de la communauté chrétienne dans ce monde troublé? C'est quand même décapant. Notre évêque est venu jusqu'à Marois pour se poser la question avec le titulé. Le catéchisme qui est là, c'est un collaborateur principal, et voilà, on est en train de se demander comment on va s'y prendre. Alors moi je dis revenons aux fondamentaux. Le fondamental de la mission, c'est la finale de l'évangile de Matthieu. Allez de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours. fin du Moïse. Notons en passant que le dernier verset, le verset 20, c'est le thème que notre diocèse de Marois a retenu comme thème d'année pour le diocèse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus ? Faites des disciples. Ça veut dire quoi, faire des disciples ? Ça veut dire proposer, enseigner une parole qui donne envie de suivre et de marcher ensemble. Cette parole, c'est l'Évangile et le Christ lui-même. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, il s'agit de proposer, de donner envie. On est disciple de quelqu'un qu'on a envie d'écouter. Nous sommes là d'abord et avant tout pour témoigner du Christ. Ça paraît bête. Je sais un peu d'ailleurs, c'est. Ça demande quand même. Baptisez-les. Baptiser, ça veut dire étymologiquement plonger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Plongez-les dans quoi ? Plongez-les dans la vie nouvelle, dont la source est la mort et la résurrection du Christ. C'est du cœur ouvert de Jésus que jaillit l'Église. Cette vie nouvelle qui se réalise pleinement par le baptême vécu et célébré commence bien avant ce dernier et ne va pas toujours jusqu'à la célébration du sacrement. Ça n'est pas à nous de faire des chrétiens. C'est Dieu qui appelle le mystère de la vie de chacun. Nous, nous avons à témoigner et à plonger notre monde dans la mort et la résurrection du Christ. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et qu'est-ce que le Christ nous a commandé ? Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est pas en allant tuer beaucoup arabes qu'on va leur apprendre à observer ce que Jésus nous a commandé. Il ajoute au verset suivant : vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous ne pouvons invoquer Dieu, les théologiens ou les séminaristes ou les prêtres, les évêques, on reconnaît probablement ce que je dis là. Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont tellement liées que l'Écriture dit « qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ». L'Église réprouve donc, en tant que contraire à l'Esprit du Christ, toute discrimination ou vexation dont sont victimes des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur condition ou de leur religion. En conséquence, le Saint-Concile, voilà pour ceux qui n'avaient pas compris que ça sortait du Concile, voilà. En conséquence, le Saint-Concile, suivant les traces des saints apôtres Pierre et Paul, prie ardemment les fidèles du Christ d'avoir au milieu des nations une belle conduite. C'est possible, et de vivre en paix, pour autant qu'il dépend d'eux, avec tous les hommes, de manière à être vraiment les fils du Père qui est dans les cieux. L'homme contemporain, disait Paul VI, écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. C'est ce que disait Paul VI au Conseil des laïcs en 1974, il a repris ça dans son exhortation apostolique sur l'évangélisation dans le monde moderne. Maître par notre témoignage. Voilà notre mission. Alors je voudrais, si vous voulez, retenir trois aspects de ce témoignage que nos communautés essayent de mettre en œuvre dans notre diocèse de Marois-Opolo et que j'ai appris une partie d'elle. Premièrement, témoin du bon berger. Alors là, j'ai découvert, particulièrement cette année, que cette parabole du bon berger ne concerne pas les évêques par rapport à leur diocèse et les prêtres par rapport à leur paroisse, et les chrétiens par rapport au monde. Nous sommes les membres du corps du Christ qui est le bon berger. Et donc, par notre baptême, nous avons prétention d'être bergers de l'humanité. C'est pas l'affaire des curés. Alors écoutez maintenant l'évangile de Jean, ayant ça en tête. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Quelle est notre attitude dans le monde d'aujourd'hui, dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Nous oublions trop souvent que, disciples du Christ, notre vie est donnée avec la sienne. Alors, quand vient le temps de l'épreuve et de la vérification, nous sommes impressionnés par ce que cela veut dire. Mais je l'ai découvert cette année. Il n'est pas question pour nous de nous préparer à donner notre vie, au cas où. Il est question de se préparer à vérifier que notre vie est donnée. Alors, c'est valable pour chacun d'entre nous. Est-ce que votre vie, chrétien, vous n'êtes pas chrétien, c'est votre problème, vous allez faire sauver. Mais si vous êtes chrétien et vous prétendez dire, est-ce que votre vie est donnée, oui ou non? Vérifions. Alors c'est vrai qu'il y a des situations où la vérification est plus radicale. Mais est-ce qu'elle est donnée ou pas? C'est pas est-ce que je suis prêt à la donner? Déjà. Et à partir du moment où notre vie est donnée, ceux qui veulent s'en prendre à notre vie perdent leur temps. Parce que quand ils veulent nous prendre notre vie, il n'y a rien à prendre. Ben, c'est pas nouveau, hein. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, nous dit le bon berger au verset 18 du Évangile. Quand nous prenons conscience que notre vie est donnée avec le Christ, ça la donne une grande liberté face à la mort. De toute façon, il va falloir mourir un jour. Mourir en soi n'est pas un problème, mais il n'y a rien de plus idiot que de mourir bêtement. Or, ce serait mourir bêtement que de mourir en contradiction avec ce qui donne son sens à notre vie. Et ça, c'est vrai dans toutes les situations. L'autre aspect, c'est que nous sommes témoins du frère aîné. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 29, Paul nous dit « Ceux que d'avance il connaissait, Dieu les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né des multitudes de frères. Ceux que d'avance il connaissait. » Alors on est toujours à se gratter sous les bras pour se demander c'est qui, c'est lesquels. C'est nous tous. Dieu nous connaissait tous d'avance. Et nous sommes tous, quoi nous soyons chrétiens, musulmans, machin, prédestinés à être à l'image, configurés à l'image de son Fils. Donc c'est pas la peine de dire est-ce que moi je suis prédestiné et pas l'autre. Nous le sommes tous. Et cette fraternité, nous l'avons reçue en héritage de Dieu lui-même. Ça, c'est une chose que j'ai découvert à Tocombéry. Je pensais avant que la fraternité, c'était le fruit d'une démarche qui nous emmenait vers au bout de bons sentiments et de gentillesse. On devenait des frères. Non, la fraternité, c'est une vocation à mettre en œuvre. C'est un héritage que nous avons à développer. Le pape Benoît XVI, que je citais plus haut, nous dit que l'Église est porteuse de la bonne nouvelle de la filiation divine de toute personne humaine. On n'est pas porteur de la bonne nouvelle que nous sommes invités. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons entendu un appel et nous devons y répondre. L'appel à briser la spirale de la haine et de la violence, à la briser avec un mot « frère ». Et pour dire cette parole, nous devons tous lever le regard vers le ciel et nous reconnaître fils d'un même Père. Ces mots qui semblent écrits pour nous ne sont pas de moi. Ils sont ceux que le pape François adressait au président israélien Shimon Peres et palestinien Mahmoud Abbas, le 8 juin 2014, lors de la soirée de prière pour la paix organisée chez lui au Vatican. Un ami, imam de la communauté très menacée de Amchidé, me disait un jour, « Nous les croyants, nous sommes tous en chemin. Celui qui s'arrête et qui dit qu'il possède la vérité et veut l'imposer aux autres devient dangereux pour tous. » Il m'a dit ça, il était à 200 mètres des maisons des Boko Haram. Et quand il m'a accompagné, il a fait le même coup avec Monseigneur Le Sceau, qui pourra bien rue et nous a embrassés publiquement. Mon problème ne doit pas être de démontrer que l'autre a tort, prouver que j'ai raison. Je ne sais pas pourquoi on est élu, on veut toujours plutôt prouver que l'autre a tort plutôt que de chercher à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mon problème, il doit être de découvrir que l'autre est dépositaire d'une vérité qui vient apporter un éclairage complémentaire à la part de vérité dont je suis moi-même dépositaire. Le Coran lui-même nous invite à la rencontre. La sourate 49, verset 13. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous fassiez connaissance entre nous. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Baba Simon, il est surpris que je ne le cite pas pour ceux qui le connaissent, disait « Nous sommes tous sur la même piste ». Ce qui ne veut pas dire que nous marchons à la queue leu sur une même route, mais que nous sommes tous en tension vers un même but, un même terme, un même sommet. Et nous arrivons au troisième et dernier aspect de notre témoignage. Nous sommes témoins du Christ, chemin, vérité et vie. Le Christ est chemin de tous les hommes, pas seulement des chrétiens. Ce chemin, c'est la montée vers Dieu, j'allais dire la montée en Dieu de chacun d'entre nous. Il n'y a qu'un Dieu. Et c'est en lui que nous sommes invités à monter. C'est ça que Christ est venu nous proposer, monter. Le Christ, nous dit saint Jean au chapitre 11, qui devait mourir pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, est cette montée en chacun d'entre nous. Et là, Baba Simon, je sais, c'est maintenant que je commence à comprendre ce que Baba Simon disait quand il disait « Jésus, c'est l'homme qui grandit ». C'est Jésus qui se révèle. Il ne s'agit pas de le faire devenir chrétien, ce n'est pas mon problème à moi, mais de lui permettre de découvrir ce pourquoi il est là, ce pourquoi je suis là, et de le découvrir ensemble. Prenons, si vous voulez, l'exemple d'une montagne dont nous ferions l'ascension en partant chacun d'un piémont différent. Si chacun décrit ce qu'il voit, et que quelqu'un nous écoute tous les deux en même temps, on va voir qu'on n'est pas sur la même montagne. Parce que moi je lui dis ce que je vois, l'autre écrit autre chose, il va croire qu'on n'est pas sur la même montagne, et que donc jamais on ne pourra se retrouver. Et on va vite tomber dans un dialogue de sourds. Nous aurons l'impression de marcher sur des routes bien différentes, en oubliant que ce qui donne son sens à la route, ça n'est pas la route elle-même, c'est le but vers lequel elle conduit. En revanche, si je me mets à l'écoute de ce que l'autre décrit, alors sa perception enrichit la mienne, forcément limitée. Ensemble, nous avons une meilleure appréhension de la vérité globale. Et arrivés au sommet de la montagne, nous serons tous surpris de nous retrouver nez à nez avec celui qui montait sur l'autre flanc et décrivait un chemin bien différent du mien. Pourquoi vouloir absolument marcher à la queue leu ou pas ? C'est la certitude de marcher vers un même sommet, un même but qui doit guider notre marche en avant et le respect du chemin de chacun. Et pour cela, deux attitudes me semblent indispensables. Être intelligent, c'est donné à tous. Et être intelligible, c'est aussi proposé à tous. Être intelligent, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire avoir des diplômes, avoir des super intellectuels, machin. Ça veut dire savoir lire les événements et les situations de l'intérieur, intus legere, et non pas à partir de mes propres vues. Respecter le point de vue de l'autre parce que je le reconnais frère et que, à ce titre, je fais le choix de l'aimer. Je ne fais pas le choix qu'il soit mon frère, là j'y peux rien, mais je fais le choix de l'aimer. Comme je vous ai aimé, puisque je suis chrétien, je n'ai pas le choix. Je n'ai que le choix de l'aimer puisque je suis chrétien. Ou alors, il faut que j'arrête de dire que je suis chrétien, ça c'est possible. Et si je dis que je suis chrétien, je n'ai plus le choix, ça fait partie du lot. C'est dans la... Donc mon frère, je dois l'aimer. C'est un choix, mais c'est décidé. Je peux peut-être des lèvres, mais on va dire un peu mieux. c'est-à-dire être prêt à l'aimer comme Jésus nous a aimés, ça veut dire jusqu'à mourir pour lui. Sinon, c'est pas du chiquet. Vous avez vu, j'espère, combien de dégâts les caricatures de Mahomet ont provoqué à travers le monde. Je ne sais pas si vous avez acheté le numéro concerné, mais si c'est le cas, je vous invite à lui réserver le sort qu'on réservait autrefois aux vieux journaux. Jésus en a parlé de ce genre de provocation. Il ne pas scandaliser. Que cherchaient à prouver les auteurs de ces dessins? Qu'ils n'avaient pas peur? Et on s'en fout qu'ils aient peur ou non. Ce qu'on leur demande, c'est d'aimer leurs frères et de rendre possible la vie fraternelle jusqu'à en mourir. Moi, j'ai peur. D'abord, de mourir bêtement, je vous le disais plus haut, mais peut-être avant tout, de provoquer la chute et la mort des petits qui sont mes frères. La liberté de mon expression doit s'incliner devant le respect de celle de l'autre. Ils avaient rien demandé, les chrétiens du Niger, et pourtant on a brûlé leurs églises, on a envenimé les bonnes relations qu'ils avaient su tisser avec leurs frères musulmans. Pourquoi? Pour prouver qu'on n'a pas peur. Et on appelle ça servir la fraternité universelle. Heureusement, déjà au Niger, et surtout chez nous, les musulmans sont plus ouverts. Et même s'ils ont été peinés de voir le manque de respect de leurs valeurs, ils ont su dépasser la rancune et continuer le dialogue avec nous. Si les musulmans du Nord Cameroun avaient été les mêmes que ceux qui ont fait leur bêtise au Niger, je ne serais pas là ce soir. Être intelligible, c'est-à-dire avoir une attitude et un discours cohérent avec ce que je prétends annoncer. En ce qui nous concerne, nous devons chercher à imposer le respect par la cohérence de notre amour chrétien. Alors ça passe parfois par l'offrande de sa vie. Mais Jésus, on connaît, hein, il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens, mais comme un homme qui a autorité. Il disait tout cette autorité. Pas simplement parce qu'il était le fils de Dieu, mais c'est parce qu'il était cohérent avec le fait qu'il était fils de Dieu. Et au moment du témoignage ultime, le païen qui était au pied de la croix, il ne s'y est pas trompé. En voyant la façon dont il était mort, le centurion qui était au pied de la croix dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Alors l'énorme travail de conversion auquel le pape François nous convie tous, à commencer par les cardinaux, il les a un peu secoués ces derniers temps, et sans oublier les mondes de la politique et de la finance, c'est un chemin lumineux. On n'est pas obligé de se croire toujours obligé de s'identifier au premier charbon venu, quand bien même il s'appellerait Charlie. Le Christ est là, qui fait de nous les membres de son corps. Alors plutôt que de chercher à nous identifier à n'importe quel leader, restons nous-mêmes, chacun de nous, là où il est, du mieux possible, en communion avec tous. En se rappelant que le mot communion veut dire porter ensemble. On a souvent tendance à penser que communion, ça veut dire on est ensemble, c'est gentil, on est ensemble. Communion, ça veut dire ça, oui, mais ça veut dire aussi communus, la charge portée ensemble. Et que nous sommes les disciples de celui qui nous invite à porter avec lui son joug, à être en communion. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors c'est un peu tout cela qui fait que malgré les menaces et les pressions diverses qui s'exercent sur nous, nous avons fait le choix de rester vivre à Tocumbéré et de continuer ensemble, avec nos frères de là-bas, à porter le poids du jour et de la chaleur. Merci de nous y aider par votre par votre soutien, par votre réflexion, par vos attitudes. Excusez-moi d'avoir été un peu long.